Chapitre 18. Une guérison. Des lampes fixées à des supports de fer éclairaient les corridors qui couraient au cœur des entrailles de la tour blanche. Les rares portes devant lesquelles passèrent les trois fugueuses repenties, en rang derrière Shériam, étaient fermées à double tour. Certaines étaient si bien intégrées au mur, un effet caméléon comme la cape des champions, qu'Egwen ne les vit pas avant d'avoir le nez dessus. Aux intersections, les embranchements latéraux obscurs ou tréchichement éclairés ne donnaient pas envie de s'écarter du corridor principal. Les quatre femmes ne croisèrent personne en ces lieux où même les Aes Sedai venaient très rarement. Bien que la température fût modérée, Egwen frissonnait de froid et transpirait à grosses gouttes comme si elle crevait de chaud. C'était là, dans les sous-sols de la tour, que les novices passaient une ultime épreuve avant d'être promus au rang d'acceptés, ou jetés dehors si elles échouaient. C'était également là que les acceptés prononçaient les trois serments après avoir passé avec succès leur dernier examen. Les précieux et rares Angréales et Saangréales en possession de la tour étaient jalousement conservés quelque part dans ces catacombes, et on y entreposait aussi les Terangréales de toute taille. Les sœurs noires avaient frappé ici, tuant et volant avant de se volatiliser. « En laissant derrière elles des complices qui nous attendent dans quelques recoins obscurs, parce que Shériam les a avertis de notre venue. » L'Aes Sedai s'immobilisa brusquement. Terrorisée, Egwen poussa un petit cri et rougit jusqu'aux oreilles quand ses amis la regardèrent comme si elle avait perdu la raison.
« Je pensais à l'âge noir, »
se justifia-t-elle.
« Eh bien, pense à autre chose, »
lança Shériam, ressemblant enfin à la maîtresse des novices, ferme mais cordiale, qu'Egwen appréciait tant.
« Dans les années à venir, les sœurs noires seront le cadet de vos soucis. Avant de devoir les affronter, vous bénéficierez de ce bien qui nous manque tellement. Le temps. Beaucoup de temps même. Bien. Quand nous serons entrés, plaquez-vous contre le mur et n'ouvrez plus la bouche. On vous autorise à être présente par pure compassion. Ça ne vous donne pas le droit d'intervenir, ni de déranger les officiantes. »
Shériam ouvrit une porte bardée d'un métal ouvragé pour ressembler à la pierre. La salle carrée au mur clair se révéla des plus spacieuses. En guise de mobilier, il n'y avait qu'une longue et assez étroite table recouverte d'un drap blanc. Matt y était allongé, tout habillé à part ses bottes et sa veste. En le voyant si dévasté, Egwen dut se retenir de hurler. Le pauvre garçon respirait comme un soufflet de forge et à intervalles très irréguliers. La dague de Shadar Logoth était glissée à sa ceinture dans son fourreau ouvragé. Malgré la vive lumière fournie par une dizaine de lampes, le rubis qui ornait son manche brillait sombrement comme un œil malveillant. La chair d'Amirline se tenait près de la tête de Matt et Léane près de ses pieds. Quatre Aes Sedai avaient pris place d'un côté de la table et trois autres leur faisaient face. Shériam vint compléter le trio. Parmi les officiantes, Egwen reconnut Vérine, Séraphel, une autre sœur marron, Alana Mosvani de l'âge vert et Anaya de l'âge bleu auquel appartenait également Moiraine. Alana et Anaya avaient souvent enseigné à Egwen l'art de s'ouvrir à la source authentique, puis de s'abandonner au Saïdar afin d'en obtenir le contrôle. Entre son arrivée à la tour et son départ pas vraiment volontaire, Anaya avait dû la mettre à l'épreuve une bonne cinquantaine de fois pour voir si elle n'était pas une rêveuse. Ses études n'avaient rien prouvé ni infirmé. Inlassable, la très gentille Anaya, aussi charmant sourire, la seule touche de beauté qu'elle eût reçue en héritage, s'était acharnée, continuant ses recherches avec la force implacable d'un rocher qui dévale le versant d'une montagne. Les autres Aes Sedai étaient des inconnus pour Egwen, à part une femme au regard froid qui devait appartenir à l'âge à blanc. Alors que la chair d'Amirline et la gardienne des chroniques portaient leur étole, les autres sœurs n'arboraient rien qui puisse aider à deviner leur obédience. Toutes arboraient une bague au serpent, bien entendu, et leur visage sans âge aurait suffi à trahir leur qualité d'Aes Sedai. Comme on pouvait s'y attendre, aucune n'avait accordé plus qu'un regard distrait et vaguement hautain aux trois jeunes femmes. Malgré le calme apparent des officiantes, Egwen crut voir quelques indices d'incertitude. L'étrange mou d'Anaya, le front plissé de la splendide Alana, le tic nerveux de la femme aux yeux froids qui lissait machinalement le devant de sa robe bleu pâle. Une Aes Sedai qu'Egwen n'avait jamais vue posa sur la table un long et étroit écrin en bois noir parfaitement ordinaire. Quand elle l'eut ouvert, la chair d'Amirline retira de son lit de velours un bâton blanc à cannelure qui faisait environ la longueur de son avant-bras. L'artefact aurait pu être en os ou en ivoire, mais ce n'était pas le cas. En ce monde, personne ne savait de quoi il était fait. Egwen n'avait jamais vu ce bâton. Elle le reconnut pourtant grâce à la description qu'Anaya en avait faite devant les novices. C'était un des rares Saangreal détenus par la tour, et presque à coup sûr le plus puissant. Si les Saangreal n'avaient aucun pouvoir propre, puisqu'il s'agissait de focus servant à amplifier les aptitudes d'une Aes Sedai, leur efficacité variait, comme celle des outils plus prosaïques. Avec ce bâton, une Aes Sedai déjà puissante aurait pu abattre les murs de Tarvalon presque sans y penser. Egwene prit la main de Nineveh et celle d'Elaine.
« Par la lumière, elles ne sont pas sûres de pouvoir guérir Mat, même avec ce Saangreal. Qu'aurions-nous pu faire? Réussir à l'achever et nous tuer en même temps ?»«
Je me chargerai de la fusion des flux, »
annonça la chair d'Amerlin.
« Soyez toutes très prudentes. La quantité de pouvoir requise pour briser le lien avec la dague et réparer les dégâts dont elle est responsable sera très proche de celle qu'il faudrait pour tuer le malade. Je vais établir la fusion. »
La dirigeante suprême des Aes Sedai tendit le bâton devant elle, juste au-dessus du visage de Mat. Toujours inconscient, le jeune homme secoua la tête, saisit d'une main le manche de la dague et marmonna ce qui semblait être une série de noms rageurs. L'aura blanche apparut autour de toutes les Aes Sedai, puis elle s'étendit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule masse de lumière baignant les 10 officiantes. En comparaison, les lampes ressemblaient désormais à de vulgaires bougies. Et dans cette aveuglante clarté, une lumière encore plus forte apparut soudain, tel un éclair à l'étourdissante blancheur d'os. La lueur du Saangreal. Egwene dut résister à l'impulsion de s'ouvrir au Saïdar et d'ajouter son flux à la fusion. Ce désir était si fort qu'elle en vacilla, manquant tomber. Pour la soutenir, Elaine lui serra plus fort la main. Nineveh avança vers la table, puis elle s'arrêta, hochant la tête de rage.
« Par la lumière !» pensa Egwene. « Moi, je pourrais le faire. »
Mais faire quoi, exactement?
C'est si puissant et si merveilleux.
Dans sa main, la jeune fille sentit trembler les doigts d'Elaine. Sur la table, au cœur de la lumière, Mat se débattait en marmonnant des propos incompréhensibles. Mais il n'avait pas lâché la dague ni ouvert les yeux. Très lentement, il arqua le dos, les muscles tellement tendus qu'il en tremblait. Il continua à lutter, son corps se cabrant jusqu'à ce que ses épaules et ses talons seuls touchent encore la table. Sur le manche de la dague, sa main s'ouvrit comme si on l'obligeait à écarter les doigts, puis elle s'éloigna de l'arme, pouce après pouce, sans renoncer à résister. Mat eut un rictus de douleur et sa respiration s'accéléra.
« Elles sont en train de le tuer !»
souffla Egwene.
« La chair d'Amerlin assassine Mat. Nous devons intervenir !»
Murmurant elle aussi, Nineveh répondit.
« Non. Si nous les arrêtons, en supposant que nous en soyons capables, Mat mourra. Je doute d'être en mesure de contrôler la moitié d'une telle quantité de pouvoir. »
L'ancienne sage-dame se tut, comme si elle venait de mesurer l'énormité de ses propos. Seule, canaliser la moitié de ce que 10 Aes Sedai confirmés avaient peine à contrôler avec l'aide d'un Saangreal.
Que la lumière me pardonne, mais j'en meurs d'envie.
Nineveh serra les lèvres et se mura dans le silence. Avait-elle voulu dire qu'elle mourait d'envie d'aider Mat ou de canaliser un tel flux de pouvoir? Egwene sentait en elle ce désir impérieux, comme l'appel d'une musique qui leur est obligée à danser.
« Nous devons leur faire confiance. »
finit par souffler Nineveh.
« C'est la seule chance de Mat. »
À cet instant même, le jeune homme cria.
« Muad'Dryn, Tiadaralende, Kabad'Dryn Radiem !»
Les yeux toujours fermés, le corps tendu comme un arc, il hurla.
« Los Valdar Quibiyari Los Karay Al-Kaldazar Al-Kaldazar !»
Egwene fronça les sourcils. De l'ancienne langue. Un idiome qu'elle était parfaitement capable de reconnaître, même si elle ne comprenait que quelques mots. Karay Al-Kaldazar Al-Kaldazar. Pour l'honneur de l'Aigle Rouge, pour l'Aigle Rouge. L'antique cri de guerre de Manéthérène, un royaume qui s'était éteint durant les guerres des Trollocs. Et qui s'étendait jadis là où se trouvait aujourd'hui le territoire de Deux Rivières. Egwene ne comprenait pas plus que ces mots-là. Pourtant, un court instant, elle eut le sentiment qu'elle aurait dû saisir les autres, comme si leur sens était juste hors de son champ de vision et qu'il eût suffi qu'elle tourne la tête pour que tout change. Avec un bruit sec, la dague et son fourreau paré d'or se détachèrent de la ceinture de Mat et vinrent léviter une vingtaine de pouces au-dessus de son corps torturé. Comme s'il combattait lui aussi la guérison, le rubis semblait propulser tout autour de lui des étincelles écarlates. Mat ouvrit les yeux et regarda les femmes qui l'entouraient.
« Mia Ayende Aes Sedai, kabalei mi sagne. Inde muagde aisedai mi sagne. Mi ya yende.
Le jeune homme poussa un cri de rage qui s'éternisa, emplissant la pièce jusqu'à ce que Gwen se demande comment il pouvait rester de l'air dans ses poumons. Anaya se baissa pour prendre sous la table une boîte de métal qui devait être très lourde, à voir les efforts qu'elle produisait. Lorsqu'elle la posa près de Matt, puis l'ouvrit, Egwen vit qu'il n'y avait qu'un tout petit espace vide niché entre des montants d'une épaisseur peu commune. Se baissant de nouveau, Anaya ramassa une longue pince du genre que les femmes utilisaient en cuisine, par exemple pour retirer un morceau de viande du feu, et s'en servit pour capturer la dague avec mille précautions, comme s'il s'était agi d'un serpent venimeux. Matt cria encore plus fort, et le rubis vira au rouge sang. L'Aes Sedai déposa la dague dans la boîte et referma vivement le couvercle.
« Quelle abomination !»
souffla-t'elle, l'air révulsé. Dès que la dague fut enfermée, Matt cessa de crier, et il retomba sur la table comme si ses os et ses muscles venaient de se liquéfier. Une seconde plus tard, l'aura qui nimbait les officiantes et la table se volatilisa.
« C'est fait !»
dit la chère d'Amerline d'une voix rauque, comme si c'était elle qui venait de crier.
« Oui, terminé. »
Plusieurs Aes Sedai titubaient, et presque toutes avaient un filet de sueur sur le front. Anaya sortit de sa manche un banal mouchoir et s'essuya le visage sans chercher à se dissimuler. La sœur blanche aux yeux froids, elle, se tamponna discrètement le front avec un mouchoir en dentelle de lougarde.
« C'est fascinant !»
souffla Vérine.
Pensez que le sang ancien puisse être si fort chez quelqu'un de nos jours. »
Séraphel et elle se rapprochèrent et se lancèrent dans un conciliabule à mi-voix.
« Il est guéri ?»
demanda Ninevée.
« Et il vivra ?»
Matt paraissait dormir, mais il avait toujours cette tête cadavérique. Cela dit, d'après ce qu'en savait Egwen, une guérison traitait absolument tous les maux du patient.
« Sauf si le séparé de la dague a consumé tout le pouvoir dont disposaient les Aes Sedai. » « Brendas !»
dit la chère d'Amerline.
« Peux-tu le faire ramener dans sa chambre ?»«
Bien sûr, mère. »
répondit l'Aes Sedai aux yeux froids, avec une révérence aussi inexpressive que son regard. Elle partit chercher les porteurs de civière. Plusieurs Aes Sedai la suivirent, y compris Anaya. Sans cesser de parler, Vérine et Séraphel suivirent le mouvement. Quand elles passèrent devant elle, Egwen tenta de saisir quelques mots, mais les deux sœurs parlaient bien trop bas.
« Matt va bien ?»
insista Ninevée. Shiryam la regarda sans une once d'amabilité.
« Il se porte aussi bien que possible, »
répondit la chère d'Amirline.
« Seul le temps nous dira la suite. Il est resté si longtemps en contact avec un objet portant la souillure de Shadar Logoth. Comment évaluer les séquelles qu'il en gardera ? Peut-être aucune, ou au contraire, nous verrons bien. En tout cas, le lien avec la dague est rompu. À présent, il lui faut du repos et autant de nourriture que son estomac peut en contenir. Mais à mon avis, il devrait s'en tirer. « Que criait-il, mère ?»
demanda Elaine. Elle s'empressa d'ajouter.
« Si je peux me permettre de poser la question. Il donnait des ordres à des soldats. »
La chère d'Amerline baissa un regard perplexe sur le jeune malade. Il ne bougeait plus, mais sa respiration régulière était de bon augure.
« Dans une bataille vieille de 2000 ans, je crois. Le sang ancien se réveille. Ce n'était pas une bataille. »
dit Ninevée.
« Je l'ai entendu parler d'Aes Sedai. Mère, ce n'était pas une bataille. »
Un moment, la chère d'Amerline sembla réfléchir à sa réponse, ou se demander si elle en donnerait une.
« À ces instants-là, »
dit-elle enfin,
« le passé et le présent ne faisaient plus qu'un. » Il était ici et là-bas en même temps, et il savait qui nous étions. Il nous a demandé de le libérer. Je suis un homme libre, Aes Sedai, pas le pantin des Aes Sedai. Voilà exactement ce qu'il a dit.
Léane et quelques autres Aes Sedai marmonnèrent nerveusement entre leurs dents.
« Mère !»
dit Egwen.
« Il ne pouvait pas penser ce qu'il disait. Le royaume de Manéthéren était l'allié de Tarvalon. C'est vrai, mon enfant. » Mais qui peut connaître le cœur d'un homme ? Lui-même en est incapable, j'en ai bien peur. L'homme est l'animal le plus facile à capturer et le plus difficile à tenir en laisse, même quand il a choisi son sort librement. « Mère, »
dit Shiryam,
« il est tard et les cuisinières doivent attendre leur marmiton. Mère, »
osa souffler Egwen,
« ne pouvons-nous pas rester avec Matt ? S'il risque encore de... »
La chair d'Amirline resta de marbre quand elle répondit.
« Des tâches vous attendent, mon enfant. »
Elle ne parlait pas de récurer les chaudrons, et Gwen en aurait mis sa main au feu.
« Bien, mère. »
Elle fit une révérence, vite imitée par Ninevé et Elaine, dont les robes frôlèrent la sienne. Après un dernier regard à Matt, toujours immobile, les trois fugueuses emboîtèrent le pas à Shyriam et sortirent.